Antique, grandir ensemble.
Vous écoutez RFI, les 10h à Paris, 9h en temps universel. Tout de suite, un nouveau journal avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une, occuper le terrain, montrer son engagement, l'objectif de François Bayrou, le Premier ministre français en plein déplacement, consacré au cyclone Chido. Aujourd'hui sur l'île de la Réunion, hier à Mayotte. Décryptage dans un instant. Le passage en 2025, synonyme de clap de fin pour l'un des derniers liens commerciaux entre la Russie et l'Europe. Puisqu'à minuit, le gaz russe ne pourra plus transiter par l'Ukraine. Quelles conséquences ? Éléments de réponse dans ce journal. Au sommaire, également, la rupture est consommée. Mais entre Paris et Alger, les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens. La déclaration d'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, lors de son discours à la Nation. Et puis, à 3 semaines de son retour à la Maison-Blanche, amende de 5 millions de dollars confirmée pour Donald Trump pour agression sexuelle et diffamation. Suite et fin aujourd'hui du déplacement de François Bayrou consacré au cyclone Chido. Le Premier ministre est à La Réunion où il a rencontré ce matin les élus locaux et les agents du centre opérationnel de l'île qui sert de base logistique de l'aide à Mayotte. François Bayrou qui a annoncé toute une batterie de mesures hier sur l'archipel ravagé par le cyclone qui a fait au moins 39 morts il y a 2 semaines. Le rétablissement de l'électricité d'ici fin janvier, le déploiement de l'armée et de la gendarmerie pour surveiller les établissements scolaires mais aussi un plan de reconstruction en 2 ans. Objectif, montrer l'implication de son gouvernement. Raphaël Delvolvé.
Dès vendredi, pour le premier Conseil des ministres de l'année, la loi d'urgence sera présentée et transmise au Parlement dans les 2 semaines. Ce texte spécial, annoncé par le président Macron lors de sa venue à Mayotte, permet de s'exonérer des contraintes administratives pour lancer des chantiers, comme ce fut le cas pour Notre-Dame, reconstruite en 5 ans, un modèle dont le Premier ministre s'inspire.
Un établissement public de refondation de Mayotte, sur le modèle de Notre-Dame, sera décidé le 3 janvier, donnant toute leur place aux élus.
Cette fois, le délai est bien plus court, 2 ans, et le chantier pharaonique. Après la loi d'urgence, en viendra une autre, une loi de programmation présentée dans les 3 mois et devant s'attaquer aux problèmes persistants de Mayotte, l'accès à l'eau, l'immigration, le recensement de la population ou encore les bidonvilles.
Ce plan Mayotte est une manière concrète de répondre aux préoccupations.
Et François Bayrou de rappeler également qu'il a nommé un poids lourd, Manuel Valls, ministre des Outre-mer.
C'est la première fois dans l'histoire de la République que département ministériel Outre-mer a été placé aussi haut dans la composition du gouvernement confiée à un ministre d'État.
Des garanties et une ambition comme pour afficher un sincère intérêt pour Mayotte, dont beaucoup ont douté après des polémiques à la suite du passage du cyclone.
Raphaël Delvolvé, Emmanuel Macron qui espère l'adoption d'un budget 2025, c'est ça qui a coûté à Michel Barnier la démission de son gouvernement au début du mois. Résultat, le budget initial de 2024 est reconduit à l'identique pour l'année prochaine en attendant un nouveau texte. Le décret est paru ce matin au journal officiel après la promulgation le 20 décembre d'une loi spéciale. Le budget, la dissolution, la censure, Mayotte aussi. Il en sera question ce soir pour la traditionnelle allocution de vœux aux Français d'Emmanuel Macron. Ce sera à 20h, heure de Paris, 19h, temps universel. Vous pourrez l'écouter sur RFI, émission spéciale jusqu'à 20h30. L'Ukraine visée ce matin par une attaque aérienne massive. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev, mais aussi dans la région de Soumy, dans le nord du pays. Selon l'administration militaire de la capitale, des débris sont tombés sur un bâtiment privé sans faire de victimes. D'autres infrastructures pas encore identifiées par les autorités ont été touchées. L'Ukraine qui ne verra plus un seul mètre cube de gaz russe transiter par son territoire pour arriver sur le sol européen à partir de demain. C'était l'un des derniers liens commerciaux entre l'Europe et la Russie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Alban.
Malgré les multiples paquets de sanctions mis en place par les 27, les importations de gaz russe sont reparties à la hausse cette année.
Oui, la dynamique est bien réelle. Les Européens ont augmenté leur consommation de gaz russe ces derniers mois. Si en 2023 les importations étaient de 14%, elles ont atteint en moyenne les 18% cette année. Plusieurs explications à ce phénomène. D'abord le prix, cet hydrocarbure russe est très bon marché, bien moins cher que le gaz naturel liquéfié américain par exemple. Ensuite, 2 États européens notamment tirent cette consommation de gaz russe vers le haut. La Slovaquie, elle en est ultra dépendante, il en représente à peu près 90% de ses importations. Dépendance qui s'explique d'une part par sa situation géographique, mais aussi par la proximité du gouvernement avec Vladimir Poutine. Situation peu ou prou équivalente pour la Moldavie, hein, qui dépend à 70% du gaz russe. Pour autant, cette tendance est paradoxale, Alban, puisque Bruxelles s'est fixé une date butoir pour la fin de la consommation de gaz russe en Europe en 2027, autrement dit, demain.
Merci Stéphane Genest. C'était votre chronique aujourd'hui. L'écho sur la fin de cet accord de transit russo-ukrainien est à retrouver sur l'application RFI Pure Radio et RFI.fr. En Corée du Sud, c'est une première depuis la fin de la dictature militaire en 1987. Un tribunal sud-coréen a émis cette nuit un mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol, le président déchu par le Parlement après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale au début du mois, conséquence de ses trois refus de répondre aux questions des enquêteurs qui annoncent le lancement d'une perquisition ce matin au siège du contre-espionnage. Son avocat dénonce une procédure illégale et invalide. 10h, bientôt 6 à Alger. Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens. L'attaque dimanche d'Abdelmajid Tebboune lors de son discours à la Nation devant les deux chambres du Parlement. Le président algérien a aussi appelé la France à nettoyer les sites nucléaires du sud du pays sans pour autant demander d'indemnisation pour les personnes touchées par les essais. De quoi mettre un peu plus d'huile sur le feu, selon Pierre Vermeeren, professeur à la Sorbonne, spécialiste d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
C'est un discours qui reprend les grandes thématiques qui ont été conçues par Bouteflika et par ses proches. C'est des discours qu'on n'entendait pas dans les 40 premières années de l'indépendance, mais à la suite de la décennie noire, on a vu émerger ces discours criminalisant la France coloniale, non pas d'une manière, je dirais, ordinaire, en référence aux guerres, effectivement, aux épisodes les plus tragiques de cette période, mais en allant chercher la thématique générale. Donc tout ça, bien sûr, n'avait jamais été repris par Tebboune, mais c'est fait. Dans un contexte de crise, ce n'est pas très étonnant, mais évidemment, ce n'est pas sur cette base-là qu'une quelconque entente ou réconciliation est possible. Et d'ailleurs, il ne semble pas, quoi qu'en dise le président Tebboune, que ce soit désiré. De toute manière, le président Macron, pendant 7 ans, a essayé de faire ce qui était en son pouvoir avec une bonne volonté manifeste et ça n'a pas été payé de retour, d'où effectivement son changement de politique extérieure.
Des propos recueillis pour RFI par Ouda Ibrahim. Le système sanitaire est anéanti, les hôpitaux complètement inopérant dans le nord de Gaza. Le constat alarmant dressé hier par le Comité international de la Croix-Rouge après les raids israéliens menés ce week-end sur l'hôpital Kamal Adwan, le dernier qui était encore opérationnel. Dans l'enclave palestinienne, 2 personnes ont été tuées et 10 d'autres blessées par balle dimanche lors du pillage du convoi du Programme alimentaire mondial. C'est l'organisme de l'ONU que le Hamas tient responsable qui l'a annoncé hier. Notez par ailleurs qu'après un mois d'une très fragile trêve entre Israël et le Hezbollah, les ministres français des armées et des affaires étrangères doivent rencontrer tout à l'heure les casques bleus français de la FINUL. Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, arrivés hier au Liban, se sont entretenus avec le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, en charge de piloter le déploiement des militaires dans le sud du pays, mais aussi cité comme candidat possible à la présidentielle. Aux États-Unis, à 3 semaines de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump va bel et bien devoir sortir le chèque qui est la cour d'appel, a confirmé hier sa condamnation à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts à l'écrivaine E. Jean Carroll, qu'il avait sexuellement agressée dans les années 90 et diffamée 20 ans plus tard. Les précisions à New York de Lubna Anaki.
Pas de nouveau procès nécessaire pour Donald Trump. Dans un document de 77 pages, 3 juges de la Cour d'appel fédérale estiment, je cite, que les droits du milliardaire n'ont pas été bafoués lors de son procès pour agression sexuelle et diffamation et que le juge chargé de cette affaire a tout fait dans les règles. Donald Trump et ses avocats estimé que le magistrat n'aurait pas dû autoriser les témoignages de 2 amies de E. Jean Carroll, 2 femmes qui ont affirmé à la barre que l'écrivaine leur avait bien confié avoir été agressée sexuellement par Donald Trump. Une affaire pour laquelle le républicain a été reconnu coupable en mai 2023 et condamné à payer 5 millions de dollars, des dommages et intérêts qu'il va donc devoir débourser, même si son avocat a fait savoir qu'il allait faire un nouveau recours. Donald Trump, qui doit prendre le pouvoir officiellement le 20 fin janvier, sera le tout premier président américain à avoir été condamné par la justice. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et toujours aux États-Unis, l'épilogue d'une saga judiciaire qui aura duré 8 ans. Brad Pitt et Angelina Jolie ont enfin signé hier une convention de divorce. Une partie d'un long processus, déclare l'avocat de l'actrice, encore en conflit au sujet de la vente de ses parts du château de Miraval, dans le sud de la France. Il est 10h10 à Paris, 9h10 en temps universel. Tout de suite, vous retrouvez Priorité Santé sur RFI.